Vous écoutez
RMC.
RMC.
L'homme en colère.
Mais pourquoi est-il aussi méchant ? Pierre Amiche.
Pierre Amiche, bonjour.
Bonjour à tous.
Pourquoi en colère aujourd'hui ?
Eh ben cette semaine, je suis en colère. En fait, non, je suis surtout inquiet et sidéré parce que mercredi, on a appris avec tristesse le décès d'une figure du cyclisme, Davide Rebellin, l'Italien qui venait tout juste de mettre un terme à sa carrière, la plus longue de l'histoire. Après plus de 30 ans dans le peloton, eh bien, il avait officiellement raccroché le vélo le 28 novembre. Le 30, il perdait la vie, percuté par un camion. Courageusement, le conducteur a pris la fuite, laissant Davide Rebellin seul, agonisant. À croire que les cieux n'étaient pas capables d'imaginer un monde où l'Italien ne pédalait plus. Il vivait pour le vélo et il est mort tout près de lui. Rebellin, c'était comme beaucoup de cyclistes des années 2000, les années sombres, un homme aussi brillant que sulfureux, tricheur avéré au milieu de tous les tricheurs anonymes. Certains retiendront de lui le PO, la Gerolsteiner, les années de suspension, et d'autres préféreront se souvenir d'un coureur exceptionnel, éclaboussant l'année 2004, vainqueur de l'Amstel, la Flèche et Liège, le tout en une semaine et à 33 ans. Un exploit que même Eddy Merckx n'avait pas réalisé. Vainqueur de Tirreno Adriatico, de Paris-Nice, équipier exemplaire pour les sacres mondiaux de Balan et Bettini. Et puis le Véronais gâche tout en 2008, contrôlé positif pendant les Jeux. Je reconnais que la mort rend tout très beau, même les chaudières. Rebellin, moitié super-héros, moitié super-vilain, n'aura donc pas pu profiter de la vie sans vélo. C'est un drame, évidemment, parce que mourir à 51 ans reste une anomalie. Le problème, c'est que ce drame s'ajoute à une longue liste de drames. En moins de 10 ans, Michel Escarponi, Romain Guyot, Chris Anker Sørensen, Christophe Goddard, Victor Cadebo, tous ont perdu la vie à l'entraînement. À cela s'ajoutent Antoine Demoitier, Thomas Cazzarotto et Steph Loss, tous morts en course des suites d'un accident avec un véhicule suiveur. Et là, ce ne sont que les décès qui ont émaillé l'actualité du 21e siècle. Dans l'histoire, ils sont des centaines, peut-être plus, de Jean-Pierre Montséré à Camille Dan-Guillaume. Et puis, il y a tous ceux qui ont frôlé la mort juste parce qu'ils roulaient à bicyclette. Egan Bernal, fracture multiple, opération de la colonne vertébrale et coma. John Degenkolb, percuté par une voiture qui fauche six coureurs d'un coup, il manque de perdre une main. Thomas De Gendt qui dit « Mon casque m'a sauvé la vie ». Éric Le Blacheur qui déclare « Je vois ses feux stop s'allumer, puis il repart en me laissant pour mort ». Thomas Vauclair, ça aurait pu être dramatique. Bradley Wiggins, Londres c'est vrai est une ville dangereuse. Warren Barguil, on aurait pu tous y passer. Froome, j'ai été percuté volontairement, il m'a suivi sur le trottoir. Max Walscheid, la voiture a tourné et m'a foncé dessus. Et là, on ne parle que des coureurs professionnels. En 2021, en France, 227 cyclistes ont perdu la vie. C'est la première fois depuis 20 ans que le bilan dépasse les 200 décès annuels. Alors oui, je sais, les cyclistes ont parfois des comportements insupportables, dangereux, irresponsables. Oui, c'est vrai, mais eux n'ont pas de carénage. Si tu fais une connerie en bagnole à 30 à l'heure, c'est de la tôle froissée. En vélo, eh bien, c'est peut-être la fin du parcours et le décès. L'explosion du déplacement à vélo pousse une prise de conscience. La cohabitation est non seulement souhaitable, mais inévitable. Et je ne veux pas avoir peur quand Christophe Cessieux prend son vélo. Je sais qu'en tant que pourfendeur des évidences, bien caché derrière mon micro, tout paraît facile. Mais vous trompez pas de message. J'ai rien contre la mort, ça arrive à des gens très bien. Mais je ne veux plus de cette idée et je ne veux pas risquer, moi, de me faire plomber la tronche quand je vais aux champignons, de me faire écraser quand je prends une bicyclette. Staline, qui était pas vraiment cycliste et pas vraiment amateur de Mori, déclarait « La mort d'un homme est une tragédie, la mort d'un million est une statistique. » Le pire, maintenant, serait que Tintin ne soit qu'un mort de plus, un chiffre, une stat parmi les autres. Davide Rebellin rejoint au panthéon du cyclisme italien les autres champions partis trop tôt, Pantani, Coppi, Scarponi, espérant que là-haut, le dieu du vélo soit magnanime et surtout qu'il parle un peu italien.
Au soleil vont mûrir.
Cet homme en colère de Pierre Amiche autour du drame de Davide Rebellin. Vous allez pouvoir évidemment nous dire ce que vous en pensez. Déjà rebondir au papier de Pierre. On fait une petite parenthèse hors Coupe du Monde dans cette émission car c'est l'une des actualités de la semaine. Toi Christophe qui a suivi évidemment les exploits, pas que de Davide Rebellin, coureur fantastique, coureur avec une longévité incroyable. Il a continué le cyclisme professionnel jusqu'à plus de 50 ans. C'est inédit et tragique destin. Il arrête et quelques jours plus tard,
il arrête sa carrière professionnelle, mais il continue de faire du vélo parce qu'il avait le vélo ancré au fond de lui. Ce mec-là, à 40 ans, a dit « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? J'arrête ma carrière professionnelle, j'arrête le haut niveau. » Mais il a voulu continuer et il s'alignait dans des courses à côté de garçons de 17, 20 ans. Et il gardait cette même fraîcheur. Alors c'est vrai, Pierre l'a rappelé, il y a eu aussi des années sombres. Mais à l'époque, les années 90-2000, il y avait quand même, c'était plus des coureurs cyclistes, c'était toute une bande de chaudières qui se baladaient sur les bords des routes. et comme les autres, eh bien, il a trempé là-dedans. Mais il avait cette passion du vélo, et cette passion a fini par le tuer. Ce que disait Pierre, aujourd'hui, c'est vrai que quand tu prends ton vélo, que tu sois coureur cycliste professionnel ou seulement pour te déplacer, pour aller au boulot, bah, tu n'es jamais rassuré quand tu es sur ton vélo. Et la cohabitation, il faut qu'elle se fasse, mais je vois pas comment elle va pouvoir se faire. On a l'impression que les vélos exaspèrent de plus en plus les automobilistes ou les camionneurs. Dès qu'ils voient un vélo, les mecs deviennent fous. Mais pas seulement en ville, sur les petites routes de campagne aussi. Parce que tu oses prendre la place des bagnoles. C'est complètement dingue. Et ce rapport entre les deux, je sais pas comment on va faire un jour pour arranger ça et pour permettre à tout le monde de bénéficier de la route ensemble.
Simon Dutin.
Pierrot l'a rappelé, c'est pas parce que c'est un dopé convaincu que ça m'aurait moins grave. Effectivement, quand on est cycliste, on reste cycliste toute sa vie. Et là où je rejoins Christophe, c'est que je pense que la multiplication de ces accidents ces dernières années, alors d'abord, elles sont un petit peu plus médiatisées, je pense, qu'à d'autres époques, dans les années 50, 60, où ça arrivait déjà. Je pense que c'est effectivement lié à un changement de considération des cyclistes, effectivement, mais que ce soit avec la vision, le respect, l'amour qu'on portait au Tour de France, aux courses cyclistes et l'admiration qu'on portait aux champions cyclistes, jusqu'à effectivement les rapports entre les désormais conducteurs de voitures et cyclistes. Je pense qu'il y a un respect qui a disparu, il y a une exaspération dans un monde où il faut que tout aille vite, où on est toujours pressé, on est toujours à la bourre, et effectivement face à un mouvement qui tend à développer les déplacements un peu plus verts et les déplacements cyclistes, il y a une partie de certains automobilistes qui en a un peu ras-le-bol, qui a l'impression que les cyclistes donnent des fonds à la
terrassière.
Mais il y a qu'à voir comment tu te fais insulter parfois dans Paris quand tu traverses une rue et que tu as un cycliste qui arrive pourtant en sens unique et qui te traite de connard parce que tu as failli le faire trébucher.
Oh, mérité.
Mérité ou pas, j'en sais rien, mais il y a effectivement je pense un décalage entre les risques que prennent les cyclistes et la façon dont dont ceux qui partagent la route avec eux les voient. Et le grand problème du cyclisme, on l'a rappelé, c'est que tu peux pas fermer les routes. Quand tu fermes déjà les routes pour les grandes courses, tu peux pas fermer les routes pour un simple entraînement, malheureusement.
Le drame, David et Rébelline, on en parle dans les grandes gueules du sport ce matin. Sarah Pitkowski.
Je connaissais pas ce coureur, je vais être très franche avec vous, et c'est toujours très agréable de... C'est aussi à ça que servent les grandes gueules, hein, de mettre en lumière peut-être des gens, quand on n'est pas spécialiste de cyclisme, de revenir sur des carrières. Malheureusement, c'est lorsqu'il y a des drames comme celui-là, et je ne vais pas en rajouter, mais effectivement, la route, pour l'instant, n'est pas correctement partagée entre les cyclistes et les automobilistes. Et en même temps, tu te rends compte que notre monde est de plus en plus... Enfin, il y a de plus en plus d'incivilités, et je pense que ces incivilités-là, elles se ressentent aussi à partir du moment où on pense qu'on est dans son bon droit. Et en fait, on pense tous qu'on est dans son bon droit à un moment ou à un autre. Moi, quand je suis en vélo, je vais le dire franchement, je respecte pas les... En fait, je respecte pas les consignes.
Le
c'est-à-dire que je me permets de... Quand je vois personne, je vois un feu rouge, je me dis, si je suis en vélo, c'est pour gagner du temps. Donc en fait, je vois le feu rouge, je vois personne au carrefour, je passe. Et donc en fait, on a des attitudes qui sont pas respectueuses, et c'est comme ça qu'on s'expose et qu'on expose les autres. Mais comme en plus, on se sent tout permis aujourd'hui et qu'on ne supporte pas qu'on nous impose quelque chose, quand tu vois, parce qu'il y a cet accident, mais ce camionneur, il y a délit de fuite. Il laisse quelqu'un sur le bord de la route. Et c'est dramatique parce que c'est le monde dans lequel on évolue aujourd'hui.
Non, après ça, c'est scandaleux de partir sans secourir la personne qu'on a percutée. Après, est-ce que ce genre de choses-là font pas partie intégrante du sport? Le cyclisme, faire du vélo, c'est comme la course automobile. Tu sais que c'est un sport qui est pour moi dangereux parce que ta zone d'entraînement...
Il y a plus de morts en vélo qu'en Formule 1.
Oui. Mais même en entraînement en Formule 1, tu peux faire une sortie de piste, ça peut être dangereux. L'entraînement de cycliste est dangereux, ça fait partie...
Oui, mais là, il dépend pas de toi, cet accident. Enfin, je veux dire, quand tu t'entraînes en Formule 1 et que tu fais des tests, t'es sur un circuit.
Je suis d'accord. Sarah. Non, mais je parle de sport, quand tu fais de la boxe, c'était sur le ring.
Oui, là, le problème, c'est qu'il s'entraîne et qu'il s'entraîne pas dans des conditions.
Oui, mais Sarah, tu deviens cycliste professionnel. Tu connais les risques.
Oui, tu connais les risques.
Tu dois t'entraîner. Tu les connais.
Oui, tu les connais.
Tu sais que tu partages la route avec des voitures, avec des véhicules, et que, eh ben, c'est pas privatisé pour toi.
Ouais, c'est difficilement entendable.
Ça fait partie intégrante du métier de cycliste professionnel. C'est que c'est un sport qui est dangereux, même en course officielle, c'est dangereux. Alors que là, les courses, les routes sont fermées, c'est dangereux. Oui. En entraînement, c'est dangereux.
C'est inhérent
parce que
à ton
sport. C'est inhérent à ton sport. Après, bien sûr que c'est dramatique de perdre la vie en pratiquant ton sport, en t'entraînant. Bien sûr que c'est dramatique. Mais moi, je pense que les mecs qui sont cyclistes, ils connaissent les dangers.
Il n'y a pas que les sportifs qui perdent la vie quand ils sont sur leur vélo.
Oui, mais d'accord, ça. Mais là, le sujet, c'est David et Rébéline. Je ne veux pas parler de Martin qui a un accident. C'est pas ça le sujet, même si on pense à tous ceux qui ont les accidents de vélo. Là, on parle des sportifs professionnels qui pratiquent leur boulot et leur manière.
Oui, mais c'est la façon de concevoir la route.
Tu veux faire quoi, Christophe?
Eh ben, c'est une question d'éducation.
Est-ce que tu veux créer des villes artificielles?
Non. Mais essayer de faire comprendre à la fois aux cyclistes et à la fois aux automobilistes, aux conducteurs de voitures ou de camions, que la route se partage et essayer de leur faire comprendre ça. Et c'est aujourd'hui, quand tu vas passer ton permis de conduire, il devrait y avoir des choses et l'accent mis là-dessus, tu vois, pour les jeunes conducteurs, que tu dois pas passer à moins d'1m50 d'un vélo quand tu le doubles. Il y a des choses comme ça, il y a des opérations qui sont faites pendant le Tour de France, mais qui ne sont pas assez relayées.
C'est compliqué. Les cyclistes s'entraînent en montagne sur des virages comme ça, il y a un camion qui passe, ça tend pas à voir 5-6 coureurs cyclistes qui, tu vois, il y a des situations qui sont très complexes. Entre les voitures et
quand ils sont plus nombreux à s'entraîner, il y a pas il y a les voitures des quand ils font des entraînements collectifs, il y a des voitures
les professionnels quand ils sortent en peloton, ils ont de temps en temps une voiture d'assistance pour leur amener les bidons, pour
oui,
leur
mais
amener
qui fait office de protection dans une certaine mesure.
Mais là, pour le coup, David Erreline, il était tout seul et il venait d'arrêter sa carrière, exactement.